Samedi 23 août, 10h, salle des fêtes, projection de l'écho de Maurice Felvic. À 10h, sous les platanes, les ateliers politiques. Débat rebond conduit par Monique Chemier-Gendreau à partir du film de Thomas Lacoste, Université, le grand soir, en présence du réalisateur et de Frédéric Nérat, sociologue.
Radio Uze.
Donc la question des moyens est extrêmement importante et on nous parle de l'échec, on nous parle de la dégradation du niveau, etc. Mais moi, je l'ai vécu très fortement, ça. Nous sommes dans des sociétés où il y a une contradiction formidable entre le fait que, par les médias, la télévision, que les gamins consomment à partir de 3 ans pendant des heures et des heures. Nous sommes donc dans des sociétés de l'image et du discours rapide. Et en réalité, ensuite, dans les professions, ne serait-ce que pour les recrutements, on demande des lettres de motivation, c'est-à-dire qu'on revient à l'écriture. Et il faut que la lettre soit bien, bien rédigée, dans un bon style, bien construite, etc. Donc on a un fossé entre ça que nous, on voit bien à l'université. Les jeunes, quand ils arrivent, moi, j'ai vu la dégradation de ça pendant ma carrière, entre les copies que j'avais il y a 40 ans... qui étaient des copies construites selon la rhétorique que les gens avaient déjà apprise quand ils passaient le bac. Et les copies que j'ai eues dans les années qui ont suivi, eh bien, les étudiants m'envoyaient des choses comme des flashs de télévision. Un petit bout d'information, un autre petit bout, et on ne connecte pas. Et voilà, et tout est séquencé, et la pensée s'effondre. Et nous, nous devons remonter le courant, et nous n'en avons pas les moyens, parce que pour remonter ce courant-là, il faut des heures, il faut du temps. Qu'on ne nous donne pas. Alors, moi, il me semble, par rapport au film de Thomas, que la réforme Sarko, c'est très habile, tout ça, parce que il faut qu'on fasse attention à ne pas s'aveugler devant l'énormité de ce qu'on est en train de nous faire, parce que, d'une part, ça avait commencé sous la gauche. Hein, il y a une dégradation et un effondrement de l'université, du respect pour la pensée critique, qui a commencé avant. Et donc, devant l'énormité de ce qui se passe, nos énergies sont canalisées à dire non. Et pendant ce temps-là, nous n'avons plus le temps et les moyens, ou très peu, on le fait dans certaines organisations, de réfléchir et de faire l'analyse de ce sur quoi il faut lutter plus précisément. Alors, je voudrais mettre l'accent sur 3 ou 4 choses. Il y en a d'autres, hein, mais qui me frappent particulièrement. Il y a quelque chose qui s'est envolé, qui n'existe plus. Alors, il y a le ministère vous dira qu'il est pour, hein, absolument pour. Mais c'est impossible de le réaliser dans une vie d'universitaire, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on a cassé complètement les possibilités qu'il y avait autrefois que quelqu'un soit sur 2-3 disciplines et construise un savoir adapté à la réalité. La réalité, elle n'est pas monodisciplinaire. Moi, je n'ai jamais rien vu de monodisciplinaire dans la réalité. Donc, si on veut approcher d'un objet de savoir réel, il faut y entrer soit soi-même avec plusieurs clés, soit en collaboration avec ceux qui ont les autres clés pour comprendre. Alors, il y avait des possibilités de pluridisciplinarité autrefois. Je vais vous donner l'exemple de ma propre discipline. Moi, j'ai passé un concours qui s'appelait « Droit public et sciences politiques ». Ce n'est pas une pluridisciplinarité affolante, hein. Mais au moins, et c'était dans la tradition du XIXe siècle, les professeurs de droit public étaient en même temps formés à la science politique, tout simplement parce que vous ne pouvez pas... Le droit public, c'est le droit qui émane et qui s'applique à l'État, et la science politique, c'est quand même l'étude des gouvernements et des mécanismes des gouvernements. On ne pouvait pas faire l'un sans l'autre. Et moi, j'ai encore passé cette formation-là. Et quelques années après, on a coupé. On a fait une agrégation de droit public et une de sciences politiques. Alors, les agrégés de droit public sont des ingénieurs techniciens du droit administratif, mais ils n'ont plus la réflexion et la philosophie politique de l'État. Et les politologues basculent vers la science politique à l'américaine, c'est-à-dire qu'on fait du comptage, du quantitatif, etc. Et il y a un appauvrissement des deux disciplines, naturellement, et une moins bonne compréhension des phénomènes qu'on a à étudier. C'est un exemple, mais on pourrait les multiplier. La pluridisciplinarité ne fait plus recette, donc on n'a pas de passerelle de la pensée dans un monde où on aurait besoin d'une pensée encyclopédiste pour le comprendre à nouveau. Alors, ça c'est un premier point. Un deuxième point que je voudrais relever, hier dans le film, on a une séquence sur la question du recrutement. Évidemment, pour critiquer le recrutement qu'on nous propose maintenant dans les lois Sarko, Pécresse. Et on a raison, c'est encore une régression. Mais il ne faut pas oublier que le recrutement, au point où on en était arrivé avant les lois actuelles, le recrutement était quand même critiquable. Et il y a un point que j'ai vu, quand on arrive en fin de carrière, on a une perspective en profondeur. Quelque chose que j'ai vu se dégrader en quelques décennies, c'est l'influence du localisme. Le recrutement, quand il était sur concours nationaux, évitait la force des liens personnels qui peuvent se faire entre un prof ou un groupe de profs et un étudiant, et qui font qu'on ne voit plus les travaux de l'étudiant comme on devrait les voir. Voilà, parce qu'on le connaît, qu'il est sympa, qu'on est dans la même chorale dans la ville, et je ne sais quoi d'autre. Alors, le concours national, ça évite ça, hein, l'anonymat et l'échelon national. Dans le recrutement tel qu'il était dans la dernière phase, avant la réforme, et c'est très bien expliqué dans le film, vous avez une sélection nationale par la qualification, ce qu'on appelle la qualification, mais ensuite, parmi les gens qui ont été qualifiés, c'est l'université avec sa commission de spécialistes qui recrute. Et là, je peux vous le dire en toute humilité, parce que je l'ai fait, on penche pour le candidat local. Il y a une force terrible. Alors, d'abord, c'est injuste, parce que vous avez des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont des très bons dossiers qui n'arrivent pas à se caser, si eux, il n'y a pas de poste dans l'université d'où ils viennent. C'est injuste et ça ne va pas dans le sens de l'excellence. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut reprendre, bien au-delà de la critique de la loi actuelle, mais qui est un vrai problème. Et l'autre point, enfin, il y en a encore beaucoup, mais l'autre point sur lequel je veux insister, c'est la question de la concurrence. La mise en concurrence des universités, je me souviens un monsieur que j'avais rencontré à la fin d'un colloque il y a quelques années, qui était un monsieur de gauche, mais moi j'appelle ça la gauche de droite, qui m'avait dit, c'est un monsieur qui sortait de l'ENA, qui était dans la haute administration, était très critique à l'égard des universités, méprisant, hein. Et il avait dit, vos produits ne sont pas bons. Alors j'ai découvert que je fabriquais des produits. Mes étudiants s'appelaient des produits. Et là, la rage m'a étouffée. Ça s'est très mal passé, cette discussion. Mais j'ai compris dans quelle dérive affreuse on était. Alors, il est évident que nous faisons du partenariat entre universités, entre universitaires et de pays à pays, d'ailleurs. Et toute société de la connaissance, et nous sommes dans une société mondialisée, devra se fonder sur un cosmopolitisme. On le fait déjà, mais de la plus mauvaise manière, avec le brain drain. Hein, les pays les plus développés ne se privent pas d'attirer par tous les moyens les bons chercheurs et les bons intellectuels des pays en voie de développement. Alors, je voudrais reposer d'une manière un peu paradoxale et dérangeante les problèmes de l'université et du monde extérieur. Je ne suis pas d'accord du tout pour que l'université reste un monde clos, même si nous avons besoin de développer tranquillement entre nous des avancées de la pensée et de la pensée critique. Mais ça ne suffit pas. C'est très confortable et c'est très agréable, vous savez, d'être dans le bocal universitaire quand il est sympathique et qu'on peut faire les recherches qu'on veut. Mais les rapports de l'université et du monde extérieur sont indispensables au moins sur deux plans. L'université doit contribuer à créer le monde interculturel dont nous avons besoin actuellement pour casser les replis identitaires. C'est à travers les échanges de la pensée qu'on peut empêcher ces tendances affreuses du monde d'aujourd'hui qui conduisent tout simplement à la guerre, qui sont les replis identitaires, les replis qu'on appelle communautaristes. L'interculturel, c'est une des tâches de l'université. Et puis l'université doit être le lieu de l'innovation. Non pas l'innovation uniquement pour la rentabilité financière, mais l'innovation pour la survie et la qualité de vie de la planète et de ses habitants. Donc il faut un lien université-entreprise, un lien université-administration, c'est indispensable. Il ne faut pas le refuser, il faut l'imaginer autrement. Ça n'est pas celui qui est en marche actuellement et qui est mal orienté. Donc il faut offrir une alternative au lien université-entreprise, université-administration. Et pour conclure, je dirais que l'idée de concurrence, elle est tout à fait antinomique du savoir et de la connaissance pour une raison tout à fait logique. C'est que chacun d'entre nous apporte quelque chose, du moins on l'espère, après des années, des vies de travail et de recherche. Mais les apports ne sont pas identifiables comme des isolats qu'on pourrait attribuer à chacun. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aucune idée, aucun procédé technologique ne naît uniquement d'une personne à qui il appartiendrait. Toute idée, tout procédé s'inscrit dans une chaîne. Et ça, c'est le patrimoine humain de la connaissance. Alors, c'est très compliqué cette question, parce que c'est vrai qu'il faut protéger le chercheur, et c'est vrai pour l'artiste, du pillage de son œuvre, parce qu'il faut qu'il en vive. Donc, il y a des mesures à prendre pour que chacun reçoive une rétribution pour son apport dans la construction de la connaissance et de la création. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette idée-là a complètement dérivé avec la confiscation par les laboratoires et les multinationales. La plupart des chercheurs qui rentrent dans des laboratoires privés commencent par expliquer que leurs inventions appartiendront aux laboratoires et non pas à eux. Donc le pillage par le système mondial actuellement des idées et des savoirs d'autrui et des idées et des savoirs ancestraux accumulés qu'on ne peut pas attribuer à une personne mais qui sont des savoirs en chaîne, ça c'est un des points les plus graves. Et du coup, les universités, regardez, avec le classement de Shanghai, on est là chacun à se regarder le nombril. Ah non, je vais être meilleur l'an prochain, donc qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur? Mais cassez ça, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre les universités en concurrence comme ça? Nous devons être en complémentarité, en partenariat, et non pas en concurrence. Et donc, on en revient à une idée dont on a parlé avec Daniel Ben Saïd dans les jours précédents. C'est l'idée du bien commun. La connaissance et le savoir, c'est une des premières choses dont il faudrait établir un statut de bien commun. Et il y a des gens qui travaillent là-dessus, on ne manque pas d'idées, mais il faut commencer. Or, on n'en parle même pas, puisqu'au contraire, on est sur l'individualisation et la mise en concurrence. Voilà les quelques idées à partir du film de Thomas sur lesquelles je crois qu'on a un très long chemin à faire et Frédéric Nera va nous en dire plus.
Bonjour, je voudrais d'abord en introduction revenir sur l'intérêt que peut présenter pour nous tous la question de l'université et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Trop souvent, on pense que c'est une question de spécialistes. Je voudrais vous montrer d'abord en introduction pourquoi ça doit être l'affaire de tous. Si ça n'est pas le cas forcément, mais ça doit être l'affaire de tous. Premier point, bien, de plus en plus de jeunes vont à l'université, c'est-à-dire de plus en plus de familles sont en contact aussi indirect avec l'université. Parce que contrairement à ce que certains laissent penser, malgré tout, l'université aujourd'hui, même si elle reste inégalitaire, est plus ouverte que l'université d'avant 68. Il y a tout un discours rétrograde derrière le discours modernisateur qui consiste à louer les vertus d'ascenseur social de l'université ancienne, en oubliant qu'elle ne concernait qu'une petite fraction de la jeunesse. Donc premier point, première raison d'un intérêt. Deuxième raison d'un intérêt, l'université, c'est un terrain d'observation de la modernisation libérale. C'est un terrain où les discours ont ici basculé, où des gens de gauche tiennent des discours qui étaient effectivement jusqu'à il y a peu de temps considérés comme des discours de droite. Je vais vous en donner un exemple. Maintenant, on entend régulièrement dire par certains collègues, mais également par certains spécialistes universitaires des partis politiques même de gauche, que service public, ce n'est pas la gratuité. Le service public, ce n'est pas la gratuité, c'est autre chose. L'usager doit participer au financement de sa scolarité. Il faut que les étudiants paient des droits d'inscription plus élevés, par exemple. Et pour justifier cela, il y a un discours qui est vraiment, vraiment spécieux, qui consiste à dire que, regardez, actuellement, les pauvres financent l'université vers laquelle ils ne se rendent pas. Ils financent l'université des riches. C'est curieux, ce souci des pauvres, parce qu'habituellement, ils ne l'ont guère. Et là, tout d'un coup, quand il s'agit de justifier une mesure qui est une mesure objectivement de droite, eh bien, il trouve ses accents presque populistes. Pardon. Troisième raison d'un intérêt, il y a des analogies entre ce qui se passe dans le champ de l'enseignement et de la recherche et ce qui se passe dans le champ de l'art, de la culture, et on pourrait même dire aussi de la santé. Mais restons à la comparaison enseignement-culture. Un seul exemple des rapprochements, et peut-être que c'est la culture qui a été le premier terrain de ce point de vue-là, le premier terrain d'expérimentation. Dans les deux cas, on finance à l'audimat. On finance la culture à l'audimat. On va financer de plus en plus l'enseignement supérieur à l'audimat. Alors à notre audimat, nous, c'est pas le top 50 chansons, c'est le classement de Shanghai, mais ça revient à peu près au même. Et faire dépendre le financement public de l'enseignement supérieur et de la recherche de classifications que tout le monde reconnaît comme contestables témoigne bien aussi d'une dérive. Quatrième raison d'un intérêt qui doit être large pour l'enseignement supérieur, et là c'est plus un acte de foi, et puis c'est le versant positif de la critique que je vais faire. Je milite pour une université ouverte, et puis d'ailleurs c'est la proposition que j'avais développée dans l'autre campagne, une université ouverte à tous. Alors vous savez que se sont développées les universités populaires un peu partout, mais à mon sens, l'université populaire, elle doit être au sein de l'université publique. C'est-à-dire qu'en particulier, il y a des cours que l'on dispense, qui peuvent être ouverts à tous, sans vraiment de difficultés. Et d'ailleurs, il y a une expérience après la proposition qui a été faite à l'université de Poitiers, et ça marche très bien. Les enseignants sont tout à fait d'accord pour voir aussi d'autres publics venir dans leurs cours. C'est un système simple qui permet d'ouvrir l'université sur la cité. Voilà. Pour quelles raisons ? Je ne voudrais pas que ça reste une question de spécialistes. Et maintenant, je vais revenir sur l'entreprise de modernisation libérale, puisque c'est comme telle qu'elle se définit, autour de deux termes qui peuvent là aussi abuser, qui peuvent être à l'origine de malentendus, parce qu'ils restent encore connotés positivement. Ces deux termes, c'est, je ne vais pas pouvoir parler de tout, mais autour de ces deux termes, je vais parler de beaucoup de choses, c'est celui d'autonomie et celui de professionnalisation. Et je vais essayer de voir ce que ces termes connotés positivement auprès de la population dans son ensemble masquent de régression. L'autonomie d'abord. Alors, effectivement, a priori, je suis pour l'autonomie, nous sommes tous pour l'autonomie dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Par exemple, nous sommes pour l'autonomie scientifique, pour l'autonomie intellectuelle. Et là, c'est un vieux principe. Enfin, l'autonomie, c'était contre la science imposée, contre la connaissance imposée, contre l'imposition de certitude. J'aime d'ailleurs le nom de l'université de Bruxelles, l'université libre de Bruxelles. Et pourquoi libre ? Elle définit là un principe d'autonomie, c'est-à-dire que toute connaissance doit être soumise au libre examen. Toute connaissance doit être éventuellement remise en cause, en tout cas discutée, contestée. Alors ce principe-là, il est au fondement même, à mon sens, de l'université. Mais l'autonomie qu'on nous propose aujourd'hui, qui est contenue dans le projet Pécresse, et malheureusement, ce projet Pécresse, ça n'est que la copie d'un rapport rédigé un an avant par deux députés, un de l'UMP, un du Parti Socialiste, Fabusien d'ailleurs, à gauche du parti maintenant, qui proposait tout ce que Pécresse a inscrit dans sa loi, ce qui fait que Valérie Pécresse avait beau jeu, lors des débats parlementaires, de dire, face aux quelques oppositions timides de la gauche, qu'elle ne faisait que reprendre la copie de Claës et Bouvard, les deux députés en question. L'autonomie qu'on nous propose, elle est tout à fait différente. L'autonomie qu'on nous propose pour le moment, d'abord, c'est d'abord non pas l'autonomie des établissements universitaires par rapport à l'État, mais l'autonomie des présidents d'université par rapport aux communautés universitaires. Et fondamentalement, c'est différent. Alors, le système universitaire, il fonctionnait autour de principes de représentation compliqués qui dysfonctionnaient souvent, mais qui, à l'origine, sont quand même fondés sur des principes pertinents, en tout cas qui éthiquement me satisfont. C'est-à-dire qu'en particulier, il y avait la représentation des différentes catégories, des différents corps universitaires dans les instances de gouvernement de l'université. Mais que n'a-t-on pas dit sur ce gouvernement de l'université? Que regardez, le président ne peut pas faire ce qu'il veut, le président est entravé, les équipes présidentielles ne peuvent rien faire. Elles sont entravées pourquoi? Par quoi? Par la démocratie universitaire. Ça fonctionne jamais bien, une démocratie. Ça veut dire des débats, ça veut dire de la lenteur, ça veut dire quelquefois qu'il y a des contradictions. Mais qu'est-ce à dire? Que quand un conseil municipal, justement, se perd en longue discussion, il faut supprimer le conseil municipal et donner tout pouvoir au maire? Eh bien, c'est un peu ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a fait avec le président de l'université, c'est-à-dire qu'on lui a confié pratiquement désormais tous les pouvoirs. Et sous ce rapport, c'est à l'opposé des principes démocratiques. Alors, le président de l'université s'est effectivement autonomisé par rapport à ceux qu'il avait élus. Il reste élu par ses pairs et par d'autres, mais il est autonome. Pourquoi? Parce qu'il a la maîtrise du recrutement des enseignants, des chercheurs et des personnels administratifs. Et ça, c'est une force. Alors, il faut dire qu'il avait déjà très largement une influence dans le passé sur les recrutements, mais c'était encore renforcé, en particulier avec la possibilité de recruter sur contrat à durée déterminée ou sur contrat classique fonction publique les enseignants. Alors, vous voyez le pouvoir de pression considérable. Et il y a bien d'autres champs, bien d'autres domaines où le pouvoir présidentiel s'est renforcé. Je voudrais citer à ce propos une formule assez fabuleuse d'un président d'université, justement, qui avait été auditionné par la commission Claës-Bouvard et qui a eu ces mots forts. Un président n'a jamais trop de pouvoir. Et quand des gens prononcent ce type de discours et sont repris et inspirent les politiques ensuite universitaires, ça fait assez froid dans le dos. Donc l'autonomisation des universités, c'est l'autonomisation des présidents par rapport aux communautés universitaires. Par contre, l'autonomie des établissements par rapport au ministère, par rapport à l'État, est assez relative. En d'autres termes, certes, les universités vont gérer de plus en plus souvent maintenant leurs finances, leur personnel, avec tous les risques de localisme aussi et de népotisme que l'on peut imaginer. Mais par rapport au ministère, les universités restent très très dépendantes du ministère, qui a le pouvoir notamment d'habiliter les diplômes et qui fait passer sa politique à ce moment-là dans les campagnes d'habilitation. La direction de l'enseignement supérieur reste toujours aussi puissante et ça reste le bras vraiment d'intervention du ministère sur les universités qui n'ont pas grand-chose à dire, qui n'ont pas beaucoup de moyens de résister. Donc il y a une fiction de croire que demain on pourra recouvrer l'autonomie intellectuelle parce qu'on sera autonome par rapport au ministère. Non, non. Je le montrerai à propos de la professionnalisation. Toutes les dérives faussement professionnalisantes qu'on voit dans les universités, elles sont aussi imposées par le ministère. Et on n'a pas le choix de refuser cela. On est obligé d'inscrire des matières bidons, dans les cursus parce que sinon, on n'a pas l'habilitation pour un diplôme. Alors, les matières bidons, j'y reviendrai, mais hein, c'est en particulier tout ce qu'on propose aussi aux chômeurs pour retrouver un emploi, c'est-à-dire, en fait, des dérivés de la méthode Coué. Mais j'y reviendrai. Donc, autonomie par rapport au ministère, très relative. Mais en fait, cette autonomie qui n'est pas l'autonomie scientifique, qui est l'autonomie du président, qui n'est pas l'autonomie par rapport au ministère, elle masque effectivement la mise en concurrence des établissements. Et ça, c'est très net. C'est le projet. C'est le projet puisque le discours maintenant le plus consensuel sur l'université consiste à dire, chez les élites, hein, que la concurrence, c'est positif. La concurrence, c'est l'émulation. La concurrence, c'est, ça permet d'améliorer la qualité de l'enseignement, la qualité de la recherche. Alors, c'est très, très, très contestable comme idée, mais je n'ai pas le temps de développer. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que même par rapport à ce discours, il faudrait faire remarquer d'abord que la concurrence, elle est faussée entre les établissements d'enseignement supérieur. Elle est faussée par définition parce que les établissements d'enseignement supérieur ne bénéficient pas initialement des mêmes ressources. Ils n'ont pas le même encadrement. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Et on en appelle à la mise en concurrence sans même avoir rattrapé les inégalités initiales. Et qu'observe-t-on dans cette mise en concurrence ? C'est-à-dire qu'il y a une course à la grande taille, à la croissance de la taille des établissements, par regroupement des établissements. Et en particulier, qui se regroupe ? Ben, les plus gros. Alors, au-delà du fait qu'il y ait des regroupements qui sont là plus cohérents au sein de villes universitaires, entre les universités qui avaient été séparées, fractionnées après 68, donc à Bordeaux, quatre universités qui sont regroupées, à Strasbourg de même, au-delà de ça, on voit que, par exemple, les projets parisiens de pôles de recherche et d'enseignement supérieur et de recherche regroupent les établissements les plus puissants qui vont avoir la reconnaissance ministérielle et qui auront les moyens, qui trouveront d'autres moyens que les moyens publics, parce que, de toute façon, l'autonomie, c'est ça. C'est aussi l'autonomie dans la recherche des financements extérieurs, parce que, précisément, elles ont ce potentiel initial. En particulier sur la question du financement privé. Vous savez, le financement privé, il est de deux ordres. Il est le financement par des entreprises, alors pour des contrats de recherche, mais aussi un financement qui est un financement plus indépendant sur le mode du mécénat. Et puis après, il y a le financement privé par l'usager. Et les deux vont être développés en parallèle. Et là encore, on voit de très fortes inégalités entre établissements. C'est-à-dire que même si on accepte, ce que je n'accepte pas, mais même si on acceptait le principe de la concurrence, il faut bien voir que dans la recherche des financements, là aussi, la concurrence est faussée. En d'autres termes, pour les financements privés, les petites universités vont être, bien sûr, récupérer beaucoup moins ce type de financement et de toute façon vont être surtout très dépendantes par rapport aux financeurs. Quand on nous présente le modèle des universités américaines, des grandes universités américaines, type Harvard, etc., elles sont indépendantes par rapport aux financeurs privés parce qu'elles ont atteint une telle reconnaissance qu'elles peuvent récupérer les sous du financeur sans compromis, sans concession. Par contre, quand vous avez une petite université qui travaille avec une entreprise de la région, de sa région, qui finance le labo de recherche, il n'y a aucune indépendance possible. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une enquête, c'était un entrefilet dans Le Monde au mois de janvier, sur le financement de la recherche pharmaceutique. Hein, et on montrait un lien entre les financements et les résultats trouvés, c'est-à-dire qu'en réalité, les chercheurs n'étaient plus totalement indépendants par rapport aux financeurs dans cette position. Alors, on nous dit aussi les généreux mécènes. Les généreux mécènes, ils ne vont pas financer l'université de Limoges. Ils seront plus tentés de financer l'université de la Sorbonne parce que le mécène aime bien un miroir pour se refléter et il préfère celui de la Sorbonne à celui de Limoges. Donc, de ce point de vue-là, un financement qui, de toute façon, sera très inégal. Et quant aux droits d'inscription, puisque je vous l'annonce, ce n'est pas un scoop, mais les droits d'inscription vont augmenter très, très rapidement. Hein. Mais là aussi, le potentiel de financement est très variable selon les établissements. Les grands établissements n'ont pas de limite. Dauphine a déjà augmenté, pourra effectivement avoir des financements importants parce qu'elle a une clientèle riche. Nous, dans une université comme Limoges, de toute façon, malheureusement, on va augmenter les droits d'inscription, ça, parce que c'est la tendance, c'est la politique. Mais de toute façon, ça n'apportera qu'un financement limité parce qu'on a une population qui est une population socialement moins favorisée que la population qui fréquente les universités parisiennes. Donc de toute façon, c'est une fiction, ce financement privé auquel on nous appelle, parce que, indépendamment qu'il était du fait qu'il était inégalitaire, l'État se désengagera au fur et à mesure de nouveaux financements privés obtenus. Ça s'est vu partout. Il n'y a pas de raison que ça change. Voilà, donc mise en concurrence des établissements, ça c'est une certitude qui va avoir pour effet de creuser les inégalités existantes. Parce qu'on me dit souvent, mais les inégalités, les universités sont déjà inégales. Effectivement, l'université de la Sorbonne, de Paris 1, elle est plus glorieuse que l'université de Limoges ou l'université de Poitiers. Effectivement. Mais que je sache, ça n'est pas en mettant en concurrence des établissements déjà inégaux qu'on réduit l'inégalité. A priori, on l'accentue. Et c'est là tout aussi le problème de l'argumentation qu'on nous développe à longueur de temps, qui est une argumentation jusqu'au boutiste, c'est-à-dire comme si, en poussant les contradictions jusqu'à leur terme, on allait réduire ici les inégalités. Donc on va creuser les inégalités entre établissements, on va creuser aussi les inégalités entre disciplines, et là, je voulais souligner que c'est quand même quelque chose aussi de majeur. En fait, les disciplines qui vont être favorisées, c'est les disciplines qui sont effectivement rentables, qui sont instrumentales, qui correspondent à des besoins identifiés dans une zone géographique. Alors ne vous inquiétez pas si vous aimez les lettres, les sciences humaines, les langues rares, etc. Elles vont subsister à titre conservatoire, folklorique, voilà, à dose homéopathique dans les grands centres, parce qu'effectivement, la grande université renommée pourra se payer une danseuse sous la forme d'un département de langue, de littérature comparée. Ça restera, ça subsistera, mais véritablement à titre muséographique. Et par contre, dans les autres établissements, les lettres et les sciences humaines, elles sont clairement menacées. On peut regarder ce qui s'est passé ailleurs, hein, en Allemagne, où vous avez une réforme modernisatrice qui a été entreprise quelques années avant nous. Des grandes universités ont ainsi sacrifié des disciplines sans plus d'égards, sans plus de considération. L'université de Hambourg, à un moment donné, a même été jusqu'à se poser la question de la suppression de l'histoire ou de la philosophie, parce que le Länder considérait que bon, ça n'avait pas d'intérêt immédiat. Et finalement, les disciplines, quand même, ont été sauvées parce qu'on s'est dit, si l'histoire, c'est quand même important parce qu'elle est enseignée après dans le second degré et dans le primaire, et qu'il faut quand même qu'il y ait un lieu de production des connaissances. Et puis la philosophie, en Allemagne, ça sert un peu science de l'éducation. Donc pour la formation des maîtres, c'est important de maintenir cela. Mais d'autres disciplines plus rares, la sirologie, d'autres disciplines donc à faible effectif, ont été rayées d'un trait de plume au nom de considérations financières. Donc voilà pour l'autonomie. Je pourrais développer, mais c'est un vaste dossier. Mais il faut aussi casser l'idée que l'autonomie, c'est positif dans tous les cas. En tout cas, cette autonomie-là, il faut, à mon sens, la refuser. Deuxième terme qui est connoté positivement, celui de professionnalisation. Alors, il y a tout un discours sur la professionnalisation. Les universités ne sont jamais assez professionnalisées. Et pourtant, premier constat, elles se sont professionnalisées incontestablement ces dernières années. On a multiplié les filières professionnalisées, professionnalisantes, déjà d'ailleurs à outrance, parce qu'on a créé quelquefois des filières professionnalisées qui conduisent à des métiers qui n'existent pas ou qui existent dans l'esprit de ceux qui ont conçu la filière. Il faut savoir que pour habiliter, pour obtenir donc la reconnaissance par l'État d'une filière professionnalisée, c'est finalement presque plus simple que pour avoir la reconnaissance d'une filière généraliste. Il faut en particulier faire valoir qu'il y a un besoin, et en particulier un besoin local, par exemple, des entreprises présentes sur un terrain, sur un secteur. Quelques lettres de recommandation suffisent et sont jointes au dossier pour créer telle licence professionnelle au titre exotique, au débouché hasardeux, mais qui trouvera grâce auprès du ministère, parce que voilà, c'est la marque de la professionnalisation. Enfin, les universitaires arrêtent de transmettre de simples connaissances. Enfin, ils forment à des métiers. Il y a tout un discours qui consiste à dire, à travers la professionnalisation, en fait, qui est un discours aussi anti-diplôme, c'est-à-dire qui est une remise en cause de ce qui était le diplôme, un référent dans le monde du travail, un déterminant aussi des statuts et des salaires. Donc derrière la professionnalisation, il y a aussi cette remise en cause-là. Donc on avait déjà une professionnalisation poussée dans l'enseignement supérieur français ces dernières années, dans l'université, mais ça ne suffit pas. Maintenant, on professionnalise les filières d'enseignement général. Et là, c'est beaucoup plus grave. Alors encore une fois, c'est légitime qu'il y ait des filières professionnelles dans l'enseignement supérieur, c'est certain, quand elles correspondent à des métiers et à des débouchés effectifs. Ce qui est plus contestable, c'est qu'on considère qu'il ne peut y avoir comme objectif pour l'enseignement supérieur que de former des professionnels et que l'on réduit toutes les missions de l'université à cette mission-là. C'est contestable parce que ça occulte le fait que l'université est aussi un lieu de production de connaissances autonome. Et c'est contestable aussi parce que ce n'est pas forcément la meilleure voie d'insertion professionnelle que de professionnaliser à outrance. Par rapport à beaucoup de métiers et de secteurs, des connaissances générales seront aussi, facilitatrices et aussi bénéfiques et permettront une insertion aussi facile qu'un savoir très spécialisé qui est appelé comme tel à une péremption rapide. Quand je parle d'une professionnalisation à outrance, une professionnalisation à outrance des filières non professionnelles, ça passe en particulier par la redéfinition qui est en train de se passer des programmes universitaires et qu'on voit apparaître un peu avant la loi Pécresse, mais qui sont renforcés aussi par les compléments à la loi Pécresse, notamment le plan licence. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de réduire dans les filières universitaires la part des savoirs disciplinaires. Alors, au prétexte de la pluridisciplinarité, mais c'est très très différent de la pluridisciplinarité positive qui évoquait Monique Chemillé-Gendreau. Ici, c'est la simple mutualisation de l'existant. C'est-à-dire, pour des raisons économiques, on va dire « Non, non, une filière de lettres, une filière de philosophie, c'est trop coûteux. » Que les étudiants choisissent ce qu'ils veulent sur place parmi les enseignements offerts et qu'ils associent, par exemple, qu'importe, un enseignement de philosophie, un enseignement de mécanique, si c'est le cas, mais sans aucune idée de cohérence, sans aucun projet autre que de réduire le coût de l'enseignement ainsi dispensé. Mais la redéfinition des programmes, elle passe aussi par l'obligation faite aux universités pour obtenir les habilitations des diplômes de passer du discours des connaissances au discours des compétences. C'est-à-dire, très concrètement, de redéfinir les programmes en termes instrumentaux de compétences, soi-disant de compétences professionnelles. Alors au-delà du côté extrêmement artificiel d'une telle définition, c'est grave d'avoir cette conception-là, qui a été longtemps combattue, pas simplement à l'université, dans la formation professionnelle. Je voudrais simplement vous donner un exemple pour illustrer. Au crible des compétences, les enseignements de langue ne résistent pas. C'est-à-dire, au crible des compétences, les enseignements de langue sont réduits à la méthode assimile ou aux autres méthodes de ce type, dont on connaît bien sûr l'efficacité. Chacun, dans toutes les familles françaises, a au moins une méthode assimile. En anglais ou en d'autres langues, nous savons que nous sommes un peuple polyglotte, en tout cas à l'aise à l'anglais, en anglais, et que, bien sûr, nous n'avons aucune difficulté pour communiquer. Et cette réduction, elle est grave, parce que qu'est-ce qui passe à la trappe dans ce cas-là ? La culture, la civilisation, tout ce qui aussi est lié aux langues et conditionne même leur apprentissage. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux dans cette redéfinition à court terme des savoirs universitaires. Et ce système, cette tendance, on l'observe partout. Hein. En Espagne, il y a une association de professeurs de l'université madrilène qui a fait un programme en réaffirmant l'importance des savoirs contre les compétences. C'est les professeurs contre la compétence, tel était le titre de leur manifeste. Troisième et dernier, je finirai sur ça, troisième élément de cette redéfinition des programmes, on adjoint au savoir toute une série de modules de préparation à la vie professionnelle, à l'insertion professionnelle. Et là aussi, c'est fondé sur l'idée que les étudiants, ils sortent, ils savent rien faire, c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas de travail, pas d'emploi. C'est-à-dire qu'on essaie de, là aussi, faire porter la responsabilité du chômage sur l'institution scolaire universitaire, en oubliant la responsabilité d'autres acteurs. Pourquoi on ne recrute pas les étudiants ? Ce problème de sous-qualification ? Non, il n'y a plus le problème de la qualification maintenant. Alors on en a inventé un nouveau, c'est qu'ils n'auraient pas le savoir-être professionnel nécessaire, c'est qu'ils n'auraient pas ces qualités-là complètement essentialistes qui sont attendues sur le marché du travail. Alors, pour y remédier, maintenant, tous les étudiants sont appelés à faire du PPP, projet personnel et professionnel, qui emprunte beaucoup, encore je le disais tout à l'heure, à la méthode Pouet, c'est-à-dire aux techniques aussi de motivation à l'américaine, je peux, qui sont aussi la base des stages de formation proposés malheureusement aux demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, quand ils demandent des stages ou des financements pour des choses sérieuses, on les leur refuse. Par contre, il y a toute une série d'officines, souvent privées, qui proposent des stages de remise en selle, soi-disant, animés par de psychologues contestables, ces psychologues même pas académiques, qui vont jouer sur cette idée que si la personne n'a pas trouvé un emploi, c'est qu'il y a quand même quelque chose en elle qui ne va pas. Elle ne sait pas s'y prendre. Eh bien, pareil pour les étudiants des universités. Les étudiants de lettres, il faut leur mettre davantage de PPP qu'aux autres, parce que leur problème, il est là. Leur problème, c'est qu'ils ne croient pas en eux, ils n'ont pas la motivation, etc. Et donc, on voit maintenant toute une part des enseignements qui est occupée par ça. Alors, ne croyez pas, par exemple, par rapport à l'annonce fracassante de décembre dernier de Valérie Pécresse disant « il y aura 5 heures de plus par semaine pour les étudiants des universités, on va renforcer la formation », eh bien, les 5 heures, elles seront pour une grande partie bouffé par ces techniques de remotivation. Donc, vous voyez, derrière la professionnalisation, dont on peut dire qu'elle est un vrai souci par rapport aux familles et à l'insertion professionnelle, voilà ce qui se trame aussi, une redéfinition des savoirs qui ne garantira pas, hein, croyez-le bien à mon sens, une meilleure insertion professionnelle. Je sors d'une recherche qu'on a faite auprès des entreprises pour savoir sur quelle base elles recrutent. Les entreprises ont un discours très anti-diplôme. Mais c'est stratégique parce que, précisément, elles tiendront ce discours tant que le diplôme sera inscrit dans les conventions collectives. Ce sera une base aussi importante. Mais par ailleurs, toutes les entreprises, même celles qui disent recruter des compétences, des talents et pas regarder les diplômes, pour les postes de responsabilité, elles attendent du diplôme. Et je donnerai simplement l'exemple de la grande distribution. Un grand distributeur que vous connaissez, on interview un des responsables de cette grande marque qui met en exergue la trajectoire du patron. Il n'avait que le permis de conduire. Il avait aussi du capital, hein, un patron nordiste. Son père a été propriétaire d'une filature. C'est pas comme ça qu'il a créé son petite épicerie. Enfin, il n'était pas une petite. Regardez, il n'avait que le permis de conduire. Il s'est fait à la force des bras. Et nous appliquons la même devise. Nous recrutons des compétences. Et après, un peu plus loin dans l'entretien, on apprend que pour chef de rayon, c'est Bac plus 5, que de toute façon, le chef boucher, il pourra peut-être prétendre à chef de rayon, mais pas plus, parce que quand même, il n'a pas le diplôme. Donc, vous voyez, il y a derrière ce discours-là, sur la professionnalisation aussi, une remise en cause des diplômes comme élément de stabilité, comme élément de sécurité. Et je crois que sous ce rapport, donc, il faut aller au-delà des apparences. Merci.
Alors, la parole est à vous. J'imagine que sur tant d'aspects, vous avez plein de questions. Voilà. Oui. On va prendre, parce que le temps est court, on va prendre une série de questions.
Alors, moi, je voulais intervenir sur un point décalé par rapport à ce qui a été dit un petit peu. Parce que l'université produit effectivement deux choses. Elle produit du savoir, des connaissances, mais elle produit aussi une force de travail. Et dans un certain nombre de cas, la force de travail produite a été uniformisée au niveau mondial. C'est en particulier le cas des ingénieurs. Quel que soit le pays où ils sont formés, ils ont en gros une formation équivalente et ils sont transférables d'un pays à l'autre. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister en ce moment, dans la suite des réflexions de l'OCDE qui datent d'une vingtaine d'années, précisément à travers toutes les réformes de l'université qui ont toutes les caractéristiques que vous avez énoncées, à la tentative de fait de mettre en œuvre une main-d'œuvre, enfin un marché du travail mondialisé complètement avec des formés qui sont interchangeables d'un pays à un autre. Et de ce point de vue, l'université ou la concurrence entre les universités change un petit peu de nature parce que finalement ce n'est qu'un moyen pour obtenir cette uniformisation de la main-d'œuvre, l'interchangeabilité de la main-d'œuvre, les changements de pratiques. Et tout ce qui a été dit à la fin sur effectivement les compétences, les conventions collectives et tout ça se comprend parfaitement. Il faut effectivement que tout ça change en donnant un sens positif à ces régressions qui sont finalement le fait qu'il est bon d'aller voir du pays, il est bon d'aller voir le voisin, il est bon d'avoir des échanges et donner tout un tas de raisons illusoires finalement sur l'évolution qu'on est en train de mettre. Et je crois que moi, c'est un petit peu ce que je voulais dire, et bon, c'est, faut pas prendre ça en mauvaise part, mais c'est un peu une critique du discours que j'ai entendu. Finalement, croire à un dysfonctionnement intellectuel des gens qui sont en face me semble faux, et dans la lutte qu'on a contre eux, c'est pas. Je pense pas qu'on y arrive comme ça. Je pense qu'ils disent des choses qui sont fausses parce qu'en fait, ils ont une visée qu'ils ne disent pas. Il faut qu'on perçoive la visée qu'ils ont et qu'on dénonce effectivement la visée qu'ils ont. Et la visée qu'ils ont, c'est de réaliser une main-d'œuvre mondialisée et docile.
Moi, je voudrais intervenir par rapport à la recherche et par rapport au film qu'on a vu hier et à certains aspects de ce matin. Bon, j'ai quelques petits points. Je vais essayer d'être bref. Première chose, le CNRS. Le CNRS, c'est un organisme de recherche fondamentale au départ, dont le but est, le but premier est l'avancée des connaissances. Le CNRS a toujours ennuyé fortement tous les gouvernements depuis très longtemps. Hein, je ne vais pas refaire l'historique, mais Allègre l'a combattu vigoureusement. Et à quoi on a assisté depuis la réalisation de ce film, c'est la mise en pièces du CNRS sous la forme de la création d'instituts autonomes, on retrouve des mots communs, des instituts autonomes avec un directeur d'institut qui sera, je cite, le patron. Et alors, on a, je vais passer très vite sur la lutte syndicale, sur les différents aspects qui ont combattu ce projet. Il y a eu, au conseil d'administration du CNRS, on a sauvé, entre guillemets, l'essentiel, c'est-à-dire l'unité de l'organisme. Mais il faut savoir que depuis, j'ai des informations, tout est remis en cause et que le CNRS peut éclater la semaine prochaine. Ce CNRS, il a permis à la France, à travers des emplois permanents, d'avoir, avec peu de moyens, une originalité dans la recherche. Et la recherche française a évolué beaucoup dans ce sens. Alors, je voudrais intervenir juste rapidement sur les moyens, sur l'interdisciplinarité, la concurrence et le gigantisme. Sur les moyens, il y a des moyens pour la recherche en France. Il y a beaucoup de moyens. Et les moyens augmentent. Mais l'essentiel des moyens sont dans le crédit impôt recherche. Qu'est-ce que c'est que ça ? c'est de l'argent donné aux entreprises pour qu'elles investissent dans la recherche. Simplement, ces crédits ne reviennent jamais pour favoriser la recherche. Il y a d'autres moyens sur ce qu'on appelle les nouveaux outils, comme par exemple des réseaux technologiques de recherche avancée. Énormément de moyens là-dedans. Aucune démocratie, c'est simplement de la prestation de services pour les entreprises. Donc, est-ce qu'il faut couper les relations avec les entreprises? Absolument pas, vous l'avez dit. Il faut favoriser les relations avec les entreprises. Je travaille dans le domaine des sciences de la nature, chimie essentiellement, mais physique, nano, etc. Dans ce domaine-là, premièrement, l'interdisciplinarité existe. Dans les sciences de la nature, au contraire de ce que vous disiez, on a vu une montée en puissance de l'interdisciplinarité. J'insisterai pas, mais... Et dans ce domaine-là, on a à relever des défis comme par exemple le monde de l'énergie de demain. Comment on va produire de l'énergie et comment on va l'utiliser? Et ceci remet en question complètement le modèle de société dans lequel on vit. Il nous faut des industries petites, délocalisées, le transport coûte cher, etc. Comment on va produire cette énergie? Tout ça, c'est quelque chose qui, à l'échelon d'un organisme comme le CNRS, pouvait faire l'objet d'un programme. C'est quelque chose dont on n'entend plus parler du tout. La course à la grande taille. Sur la grande taille, la concurrence, il faut voir que la concurrence qui s'applique à l'échelon local, à l'échelon des entreprises, il y a une concurrence aussi au niveau mondial qui se traduit dans la recherche par l'accès aux publications d'excellence, l'accès aux brevets, etc. Les États-Unis imposent une norme dans le domaine des sciences de la nature de caractérisation qui nécessite des appareillages qui coûtent des fortunes. Aucune petite université ne peut avoir ces appareillages. Il y a une mutualisation qui est nécessaire et cette mutualisation impose le regroupement des forces. Et ça, c'est quelque chose que l'on subit de l'extérieur mais qui impose de mettre en commun des moyens sur quelques centres. Et bon, on pourra en discuter, mais je ne vois pas d'alternative à cette mutualisation. Et puis, juste pour finir, sur la parcellisation du savoir, ce qu'on voit dans la formation des étudiants maintenant, c'est, je ne sais plus qui parlait de flash comme à la télé, en sciences de la nature, c'est incroyable. Les étudiants sont formés à la pluridisciplinarité, mais on a un flash sur quelque chose et tous les fondamentaux manquent. Et on a vu ça se mettre en place avec la réforme du master, où on a perdu la compétence, je crois, dans les domaines fondamentaux, par exemple de la physique et de la chimie. J'arrête là.
Oui, moi je rajouterai simplement quelques éléments par rapport au. Bon, à la fois aux premiers intervenants et puis là au commencement du débat, où je trouve que les deux interventions là sont très intéressantes et se complètent bien, au sens où on ne peut plus penser l'université sans penser également le système de recherche, quoi, hein. C'est-à-dire c'est à la fois alors Frédéric a insisté énormément là-dessus, mais c'est il a insisté sur le côté enseignement, finalement, mais il y a effectivement tout l'aspect recherche aussi, où il y a des enjeux énormes et des enjeux mondiaux. Alors, de ce point de vue-là, moi, je pense qu'il faudrait rajouter, là, par rapport à l'intervention précédente, la mise en place des pôles de compétitivité, bon, qui sont aussi une pièce essentielle dans le financement de la recherche, mais évidemment dans le financement de la recherche des sciences expérimentales, quoi, hein, et donc celle que l'on cherche à opérationnaliser le plus rapidement possible. Donc là, on a un modèle qui est en train de s'installer en France, qui est le modèle du cluster, quoi, hein, où on va faire en sorte que le système universitaire va être central et où les anciens organismes, quand je dis les anciens, le CNRS ou l'INSERM aussi, hein, est démembré en institut. Donc où ces nouvelles grandes universités françaises à terme vont fédérer le potentiel de recherche autour de clusters et de pôles de compétitivité. Alors il y a un autre élément aussi à mettre en exergue de ce point de vue-là, qui a été dit d'ailleurs dans le film hier, c'est les financements par l'ANR.
T'as une partie que t'as pas eue ? Ouais.
Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que également les financements. Oui, alors l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, où en fait la majeure partie des crédits publics pour la recherche sont maintenant distribués. Hein, donc la majeure partie des crédits publics pour les contrats de recherche sont aux mains de l'ANR. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, des laboratoires publics qui vont être labellisés dans des pôles de compétitivité ont droit à des primes supplémentaires de financement par rapport à d'autres. Hein. Donc voilà, on a ce phénomène de concentration. Alors par rapport à tout ça, moi je voudrais quand même revenir sur un point qui me paraît essentiel, c'est la question de la critique. Bon. Et ce que j'observe, moi c'est la position hein, que j'ai, c'est que je pense que la critique aujourd'hui, à l'intérieur même du système de la recherche, est beaucoup plus faible, beaucoup plus atténué qu'il y a une trentaine d'années. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, après 68, dans les années 74, 75, on a vu énormément de publications sortir de la part des scientifiques, notamment, pour critiquer le système de la science tel qu'il était. Bon, je fais référence notamment à des gens comme Jean-Marc Lévy-Leblon, etc., enfin, un certain nombre de physiciens. Bon, parce que là, c'était la physique un petit peu qui était en ligne de mire. Bon, qui ont été véritablement critiques par rapport au système qui s'était mis en place, attention, pratiquement dès les années 60. C'est-à-dire le système, par exemple, par contrat de recherche a été mis en place dès les années 60 en France. Et donc qui a conduit à une précarisation dans les métiers de la recherche. C'est-à-dire la précarisation dans les métiers de la recherche ne date pas d'aujourd'hui. Elle est très ancienne et puis il y a eu des phénomènes de titularisation ensuite, quoi. Bon. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que l'on voit de la part notamment du monde scientifique, quand je dis le monde scientifique, à la fois universitaire hein, et des organismes de recherche, c'est simplement la revendication « donnez-nous plus de moyens ». Bon. Alors, même si ça fait partie, de la revendication, on ne sent pas, une critique, une autocritique, hein, comme le disait Jean-Marc Lévy-Leblanc, une autocritique du système tel qu'il se construit, enfin, tel qu'il avance quoi, hein, en ce moment. Et je crois que c'est un petit peu ce qui manque, parce que quand on prend un mouvement comme Sauvons la recherche, bon, qui aujourd'hui animé, enfin, qui a été incité, disons, plus par les biologistes, hein, et c'est pas pour rien, précisément parce que la biologie devenait une big science hein, à ce moment-là, on sent plus une revendication de moyens plutôt qu'une critique du système dans lequel on s'enferme. Et ça renvoie à des vraies questions. Une vraie question de fond, c'est par exemple celle que pose la Frédéric tout à l'heure, l'université ouverte. L'université ouverte, la recherche ouverte, qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
Oui, bonjour, merci pour tous ces éclairages intéressants. Moi, je voudrais revenir avant l'université. Je m'explique, je suis conseillère d'orientation psychologue. Je tiens au psychologue puisque c'est encore quelque chose qui nous protège pour l'instant, pour peu de temps. Mais je ne vais pas développer là-dessus. C'est pour mettre le doigt sur comment les attaques se font à tous les échelons. Nous, on n'est pas beaucoup en France. Conseiller d'orientation, directeur de CIO, on est 4500. Notre ministère a réussi à nous mettre en accusation férocement, comme des boucs émissaires sur les dysfonctionnements de l'orientation. Il faut des boucs émissaires. Comment ils ont fait ? Ben, en le disant beaucoup, qu'on n'était pas des bons, qu'on ne savait pas le faire, qu'on ne connaissait pas l'entreprise, on ne la connaît pas. On passe notre temps en palabre auprès des gamins. De la psychologie pour les écouter, pour en faire quoi? En réalité, ce qu'on devrait faire, d'après notre ministère de tutelle, c'est mieux connaître l'entreprise. Aller en stage, écouter ce qu'on nous dit. Dans les entreprises, je veux dire. Et puis bien dire aux élèves quels sont les métiers que l'on appelle en tension. Et les métiers en tension actuellement, ce n'est pas difficile. C'est le service à la personne. Service à la personne, ce n'est pas bien payé. C'est précaire. C'est des boulots à temps partiel pour des femmes pas trop qualifiées en général. Ce sont l'hôtellerie-restauration, dont beaucoup entrent et sortent. Il y a des exagérations. Pas possible et sans limite, mais dans l'hôtellerie-restauration, métier noble certainement, mais un paquet de pizzaïolo quand même. Le bâtiment travaux publics, où il y a des métiers tout à fait difficiles, précaires, peu payés, encore que ça s'est un petit peu arrangé parce qu'ils avaient beaucoup de besoins. Autrement dit, si nous, on leur disait bien, là où il y a du travail, là où c'est bien pour eux, ils s'orienteraient comme il le faut. Ce que l'on attend de nous, c'est que l'on fasse de l'orientation par les flux, à court terme, par les flux, je veux dire par là, les masses d'élèves qui sortent chaque année à tel et tel palier d'orientation. C'est ce que l'on appelle les flux. Alors, la profession, en règle générale, résiste à ça. C'est pas grave, on nous accuse, on est absolument étranglé par les moyens. En 2003, il y a eu un sacré coup de force de fait. Je voudrais revenir là-dessus parce que c'est quand même très exemplaire de la brutalité extrême à laquelle on peut être tous soumis. En février 2003, la loi n'avait pas été votée, n'avait même pas été discutée. Nous avons appris par courrier électronique que nous passions sous la tutelle des régions. C'est fort quand même comme procédé. C'est d'une brutalité absolument exceptionnelle. La profession s'est organisée, s'est défendue d'une manière absolument exemplaire, grâce au courrier électronique largement, ce que notre ministère de tutelle avait sans doute sous-estimé. Ça nous a un peu épuisés parce qu'actuellement, on est en train de nous faire de la peau autrement et de façon autrement plus efficace. Comment on nous fait la peau? On continue à dire qu'on est des pas bons, qu'on est des nuls, qu'on ne sait pas le faire. Et puis surtout, en ne remplaçant pas ceux qui partent à la retraite. À partir du pré-recrutement, qui est fait avec une licence de psychologie, on va dans une école de conseiller d'orientation. On est formé pendant 2 ans. Pas trop mal formé, je crois. Alors, s'il y a, par exemple, je n'ai plus les chiffres en tête, mais s'il y a 300 départs en retraite cette année, eh bien, on va remplacer 200 personnes. Alors, ce n'est pas difficile de voir, on commence à être complètement étranglé, c'est les petits CIO qui ferment, c'est des regroupements, c'est le service public, c'est le maillage du territoire qui s'en va. Ça se fait, ça s'est fait dans le Nord, en Bretagne, dans le centre de la France. Ça va continuer, évidemment. qui est-ce qui va faire ce boulot? Non pas que ce soit un boulot absolument indispensable, mais le système éducatif est tellement compliqué que pour s'y retrouver, il faut des gens qui vous expliquent. C'est quand même fort, ça aussi. Ça, c'est une inégalité socioculturelle énorme. Alors, qui est-ce qui va faire le boulot? Les profs, bien sûr, ils sont déjà largement en train de le faire. Ils vont le faire comment? Ben, en plus, comme ils peuvent, partiellement, forcément. Parce que le système est compliqué, c'est vraiment du temps plein pour savoir toutes ces petites subtilités. Et puis, les secondes carrières qu'on annonçait pour les profs, c'est cher de faire des secondes carrières. Ben, ils vont être conseillers d'orientation, on va les former comme ça, en compagnonnage, en vitesse. Ils vont faire ce qu'ils pourront, pas forcément mal. En même temps, il y a des services avec des personnels qui sont nos presque collègues, mais qu'on met en concurrence avec nous. Entre autres, les missions locales, les PAIO, qui ont des missions de service public, bien sûr, qui ont une mission d'ANPE jeunes pour les 16-25 ans, par convention avec les ANPE. Eux, ils veulent rentrer dans l'école, parce qu'ils savent qu'on a des conditions de travail qui sont meilleures, qu'on a des garanties qui sont meilleures, on est encore fonctionnaire d'État. Mais ils veulent entrer, bien sûr. Entrer pourquoi? On les pousse à entrer aussi. Bien pour dire aux petits jeunes dans les collèges, dans les lycées, les services qu'ils ont à attendre de la NPE. Autrement dit comme ça, bien sûr, on leur rend peut-être un petit service, mais on leur dit aussi que c'est ce qui les attend, les services de la NPE, des stages courts, des toutes petites bourses pour survivre. C'est ça qui se passe actuellement. Hein. Les chefs d'établissement résistent encore, surtout pour les plus anciens. Ils résistent de moins en moins, bien sûr. On fait entrer les entreprises aussi, pas n'importe comment, dans les entreprises, dans les collèges, dans les lycées professionnels. Pourquoi ne pas les faire entrer? Mais qui est-ce qui commande? Ils ne veulent pas qu'on soit là. C'est pour ça aussi qu'on ne veut pas les faire entrer. Pourquoi ils ne viendraient pas? Pourquoi on ne ferait pas des débats contradictoires? Mais qui est-ce qui est garant de la moralité de ces débats dans les écoles? Il faut quand même que ce soit le corps enseignant. Il faut que ce soit nous auxquels je m'assimile. Dans ces cas-là, ils ne veulent pas qu'on soit là. Ils veulent qu'on leur apporte les petits mignons et puis qu'on reparte. Ils font du pré-recrutement. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça le quotidien. Alors, d'accord. Alors, je voudrais juste vous dire que l'orientation, c'est un des thèmes de la présidence française européenne. Le président Sarkozy va faire une annonce, entre autres, sur le sort réservé à notre petite profession, enfin petite en nombre. C'est le 21 au 22 septembre à Lyon. Alors, écoute, j'aurais eu d'autres choses à dire normalement sur les stages. Je vais quand même dire un mot là-dessus. Je vous ai écouté beaucoup dans le film. Il y a un autre problème avec les stagiaires qui remplacent les CDD. C'est la perte de professionnalisation des titulaires des postes, notamment dans les inspections académiques, pour prendre cet exemple-là, de titulaires qui ont tellement de stagiaires en charge, qui perdent leur professionnalisation et qui sont acculés à travailler moins bien dans les compétences qui sont les leurs et très importantes.
Juste pour rappeler que UGES, ce n'est pas que des débats, c'est aussi de la création en direct. Donc il y aura un concert après. Donc on a encore deux interventions. Il faudrait faire assez rapide, si c'est possible. Merci.
L'année où j'ai quitté la fac, c'était le rassemblement entre l'UNEF et l'UNEFID, et j'ai lutté contre. Pourquoi? Parce que, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, l'UNEF était d'accord avec ça. Oh, mais qu'est-ce que demandait l'UNEFID? L'UNEFID demandait, en quelque sorte, un système de type keynésien, c'est-à-dire un système où les études soient financées, où les étudiants n'aient pas beaucoup à payer, où il y ait beaucoup de bourses, certes, mais où les étudiants n'aient pas leur mot à dire. Or, l'UNEF était d'accord avec tout ce qui vient d'être dit là, et l'UNEFID demandait juste un système keynésien. Et c'est donc très grave que l'UNEF et l'UNEFID se soient fusionnés, parce que comme l'UNEFID est 10 fois plus nombreuse que l'UNEF, je suppose que l'UNEF a été dévoré par l'UNEFID, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de syndicats étudiants qui soutient le débat d'aujourd'hui. Et j'estime que c'est très grave.
Oui, moi je vais parler création puisqu'on est un lieu de création. Pourquoi l'université, avant la réforme Sarkozy, la création est restée aux portes du savoir? Pourquoi il a été distribué uniquement magistralement comme il se faisait depuis des siècles? Pourquoi? Sans doute parce qu'on n'a pas professionnalisé suffisamment les professionnels universitaires. Moi, je suis d'accord avec le débat comme il se passe, mais changeons de planète, comme Copernic, ou de, plutôt de point de vue. Mettons-nous du point de vue des étudiants. Pourquoi autant d'étudiants en échec dès la première année d'université, et bien avant la réforme Sarkozy? Pourquoi, par défaut de professionnalisation des universitaires, on ne leur a pas permis d'engager des procédures de réussite avec les étudiants aussi nombreux, en échec? Pourquoi? Ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question d'état d'esprit. Donc ça me met sur une planète d'interpellation, avec des désaccords avec ce que vous avez dit concernant les stages de remotivation. Moi, je fais de l'éducation nouvelle. À la rentrée, 17 profs en psychologie travaillent sur des ateliers d'écriture. À la rentrée, avec les crédits Sarkozy, c'est notre pognon, non, les crédits Sarkozy. Avec les crédits Sarkozy, pour pouvoir payer des profs qui se forment à mener des ateliers d'écriture pour que les étudiants se retrouvent dans des situations de réussite en situation d'écriture. Vu que l'écriture est une forme de la pensée extrêmement opératoire, extrêmement créatrice et qui peut permettre, quand on possède le désir et le pouvoir d'écrire, de reprendre ses études, quelles que soient les conditions, ou de bagarrer avec. Il ne faut pas mettre tous les stages de remotivation dans le même sac. Il y a des stages qui vous disent « Mon pauvre ami, vous n'êtes pas bien dans votre peau, je vais vous redorer le nombril, comme ça vous allez être mieux en entrant à l'université, vous allez pouvoir écouter le magistral sans vous endormir. » Ou bien il y a des stages qui disent « Vous êtes, voyez, à partir des pouvoirs d'écrire, des pouvoirs de penser, des pouvoirs de savoir, vous êtes des gens capables de considérer que vous êtes, un, opprimé dans ce que vous supportez pas, dans ce qui vous arrive, et deux, capable d'être solidaire pour apprendre. Au CAPES, les études montrent qu'on a 7 fois plus de chances de réussir au concours si on le prépare à partir de 3 jusqu'à 5. Ça veut dire que le collectif solidaire est efficace. Je deviens sarkozyste, efficace, etc. Je pense que l'université vient de prendre sur le coin du nez une réforme basée sur essentiellement une sorte d'endormissement. Dans mon association, on a signé tous les textes avec le SNESU pour défendre l'université. Je veux dire, et puis je ne suis pas étudiant, mon point de vue c'est à mon âge. Mais on se trouve dans une situation où nous récoltons une réforme et nous avons du mal à avoir un appui populaire autour de cette réforme parce qu'on a trop traîné dans les explications. Mais oui, il faut travailler avec les entreprises depuis l'université, simplement avec des contrats avantageux pour l'université et pas des contrats d'asservissement. Mais oui, il faut que les étudiants réussissent. Il n'y a pas un étudiant, sauf des thésards qui sortent au bout, qui se sent en situation de réussite quand il sort de l'université. Même quand il a réussi, il se retrouve à un échelon en se disant ben, « J'aurais voulu aller plus loin et je sors. » Deuxième, troisième année, je sors. Voilà. Or, ça, il faut le changer. Il faut le changer. Et pour ça, on a besoin de former les professionnels. On a besoin que l'université... Les professionnels, c'est-à-dire les profs. On a besoin de former... Je ne vous parle pas des profs du collège et du lycée, c'est un autre. Les profs d'université... C'est aujourd'hui comme si le fait d'avoir fait une thèse, d'être savant, ça suffisait pour être pédagogue. C'était vrai pour Éluard parce qu'il avait un... C'était vrai pour Abélard parce qu'il avait un combat. Il s'agissait de se battre contre les dogmes d'une église. Mais aujourd'hui, si on n'a pas un combat et si on n'apprend pas professionnellement à mener un combat pour la réussite d'une nation, je dis bien une nation, alors à ce moment-là, on n'est pas formé professionnellement. Voilà ce que je voulais dire parce que si on ne parle pas comme ça... Il n'y aura pas d'appui contre la réforme d'une université qui va la foutre exsangue. Il nous faut nous appuyer sur les capacités populaires à reprendre en main son destin par rapport au savoir.
Moi, je voulais aussi revenir sur la question de l'orientation. Bon, je sors tout juste de mon cursus universitaire et j'ai pu enseigner cette année à des étudiants. Donc, j'ai vu le problème des deux sens. Moi, j'ai toujours réussi à construire mon parcours à l'université, mais je rencontre une grande errance des étudiants dans leur cursus universitaire. Il y a un problème de passage évident entre l'école et le monde professionnel. Il y a ces années qui sont là à où ils construisent du savoir, mais voilà, je pourrais pas l'expliquer très précisément, mais il y a évidemment quelque chose à construire. Tous les étudiants, par exemple, que j'ai eu cette année, bon, c'était en sociologie, donc bon, moi je suis pas du tout sociologue, mais j'ai vu, enfin, la démocratisation de l'accès à l'université est très sensible dans ces matières-là, psychologie, sociologie, parce qu'il y a énormément d'étudiants qui viennent de bacs très diversifiés, etc., et qui ne projettent pas du tout de faire des études longues. Mais comment faire des études courtes à l'université? Comment valoriser un diplôme qui maintenant est passé à la licence, mais parce que le DEUG n'avait déjà plus du tout d'importance? Et voilà, moi j'ai été jusqu'à un DEA de recherche, mais je me rends compte que c'est pas du. Enfin, c'est. Ceux qui vont jusqu'à leur bac plus 5 en fait sont très très rares, et que ceux qui prennent la porte au bout de 2 ans ou 3 ans même d'université ne valorisent pas forcément leur diplôme universitaire par la suite. Voilà.
Bon, je vais pas parler longtemps, mais les problèmes que vous avez évoqués au niveau universitaire se posent. Bon, moi, je travaille en collège, et les mêmes déstructurations et le retournement des valeurs qu'on avait jusqu'à présent s'opèrent. Les établissements aussi sont mis en concurrence sur des évaluations basées sur des critères chiffrés, du genre taux de réussite au brevet, taux de mention au brevet. Le projet d'établissement se réduit à cela. Il y a deux mots qui sont devenus des gros mots maintenant, je trouve, c'est pédagogie et culture. Alors cela, on les oublie complètement. Quand vous parliez de pluridisciplinarité, on a demandé sans arrêt, moi, depuis que j'enseigne, je suis bientôt à la retraite, on s'est battu pour faire du travail en commun avec plusieurs disciplines. On n'a jamais obtenu le temps qu'il fallait pour effectivement préparer un travail commun. Maintenant, on veut nous faire croire que c'est arrivé, puisqu'on demande à un professeur de faire tout et n'importe quoi, effectivement, de l'orientation, et puis aussi des arts plastiques, parce que cette année, les matières artistiques ont pris un très grand coup. Et voilà, on veut laisser croire que c'est pas le professeur de musique qui doit faire de la musique, mais le professeur de français. On détruit, tout est détruit. Les matières sont réduites, on a presque plus de temps pour enseigner sa propre matière, et on vous demande peut-être même de ne pas l'enseigner. C'est d'une tristesse étonnante, et on entend effectivement ces termes de concurrence, autonomie, fausse autonomie, autonomie dans les termes, alors qu'à cette autonomie, cette autonomie est réduite en fait par un cadre de loi liberticide complètement. Par exemple, on ne peut plus emmener nos élèves en voyage à l'étranger, c'est infaisable. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais il y a des tas de lois. Et puis on voudrait nous transformer en représentants de commerce pour chercher de l'argent à l'extérieur pour financer les petits projets internes à l'établissement. Voilà, je m'arrête.
Merci. Alors, je crois qu'on va pas tarder à conclure. Je repasse la parole à Frédéric et je redirai un tout petit mot.
Alors, oui, moi, je voulais un petit peu répondre parce que je suis en désaccord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure pour plusieurs raisons. Sur l'échec en première année, c'est un discours qui est assez faussé, qui est repris sans inventaire. Il faut revenir aux données statistiques pour s'apercevoir que l'échec n'est pas ce que l'on dit et que l'échec n'a pas aussi la signification que l'on dit. Il n'a pas les proportions que l'on dit. Si on ne regarde pas simplement au bout de 2 ans pour le DEUG, quand il existait, si on regarde à 3 ans, à 5 ans. Pourquoi on accepterait qu'au lycée, il y ait des parcours qui soient plus ou moins lents, et qu'à l'université, eh bien, on considérerait qu'à 2 ans, s'il n'y a pas la réussite au DEUG, par exemple, il a disparu, eh bien, la situation est celle de l'échec. Deuxièmement, sur l'échec, parce que c'est vraiment, je trouve, un discours complètement manipulé, l'échec n'a pas forcément la signification qu'on lui impute. L'échec, il serait dû à l'institution uniquement. Mais attendez, à 18 ans, c'est une année spéciale. Avoir 20 ans, avoir 18 ans, avoir 20 ans, ce n'est pas n'importe quelle année, c'est l'année d'expérience après le lycée. Il y a une série de gens qui partent de l'université de première année, pas parce que forcément ils sont en échec au sens scolaire du terme, mais parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent en eux. Donc manipuler le discours sur l'échec, je trouve ça précisément la marque de l'invasion du discours modernisateur. Sur la pédagogie aussi, je ne peux être qu'en désaccord. Ça me fait penser à un vieux discours des années 70. Pourquoi ? Alors, bien sûr, il y a eu des forteresses académiques, mais il faut quand même voir que les choses ont changé. Je veux dire, le cours ex cathedra, c'est-à-dire dispenser de la chaire, c'est plus le seul modèle universitaire. Et on est en train de faire le procès d'une université ancienne. Je veux dire, les enseignants complètement inaccessibles, mais ça a peut-être existé, ça existe toujours, mais c'est pas généralisé, on doit pas le généraliser, enfin, c'est pas généralisable. Et quant à la pédagogie, le fait que les enseignants ne soient pas des professionnels parce qu'ils ne maîtrisent pas la pédagogie, c'est quand même faire injure aux enseignants-chercheurs qui ont des phases de préparation, qui sont d'abord à terre, qui font des cours, qui ont une formation spécifique. Pourquoi leur dire qu'ils ne sont pas des professionnels ? Et ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que par contre, n'importe quel intervenant extérieur qui intervient à l'université, il est réputé professionnel par définition. Donc je trouve assez surprenant d'entendre ce discours ici. Et dernier point, parce que je réagis aussi vigoureusement, dernier point par rapport à la question du débouché professionnel. Bien sûr que ça inquiète les étudiants de savoir ce qu'ils vont faire demain. Ça l'a toujours inquiété, et c'est normal et c'est légitime. Par contre, dire que précisément il faudrait les préparer, toujours les préparer à cette insertion, c'est oublier ce qui se passait auparavant. Mais qu'est-ce qui se passait auparavant quand le marché du travail n'était pas en tension ? C'était aussi aux entreprises de donner une part de la formation professionnelle. L'apprentissage, il se fait progressivement une fois embauché. Qu'est-ce que ça veut dire que de vouloir professionnaliser avant ? Antérieurement, ce qu'on est en train de faire, entre parenthèses, pour les concours administratifs, la nouvelle réforme là, de la modernisation de l'État, Éric Woerth, elle va consister à redéfinir tous les concours administratifs comme des concours professionnels, c'est-à-dire à pousser les gens à se spécialiser en amont, dans une voie, d'acquérir la professionnalité afin d'être éventuellement recruté. Et je pense que là, de ce point de vue-là, il y a un vrai problème.
Merci, Frédéric. Il y a plus d'universités qui sont ici compte le nombre de cours d'amphi qu'ils ont dans leur profession. Vous direz que c'est un vieux schéma. C'est pas vrai que c'est un vieux schéma. Vous l'avez même dans vos revendications. Vous dites on n'a pas assez de cours de TP. C'est-à-dire
non, mais.
Donc vous êtes dans le magistrat sans arrêt. C'est pas vrai que c'est un vieux schéma.
Des cours de TP.
Et demandez aux familles s'ils trouvent que l'université, c'est pas un échec pour la plupart des étudiants. Demandez.
Attendez, alors sur ça, moi je trouve ça fameux, parce que quand il n'y avait que des bourgeois qui allaient à l'université, que c'était des dilettantes, on ne se posait pas la question. Ils pouvaient dilettantiser tout ce qu'ils voulaient, personne ne reprochait la question de l'échec. Les universités, elles fonctionnaient avec des petits bourgeois dans les années 60, et Bourdieu l'a bien montré dans Les Héritiers, qui ne bossaient pas. Mais là, il n'y avait pas de problème, pas de problème. Et maintenant que des jeunes d'origine populaire accèdent à l'université, alors là, on dit l'échec. Regardez l'échec, c'est pas supportable. On ne peut pas payer l'université pour des jeunes qui sont en échec. Et puis, qu'est-ce qu'on leur propose aussi comme solution ? De les préorienter, l'orientation active. Et là, ça reprend le schéma Baudelot établi, c'est très simple. Pour les enfants d'origine populaire, les filières courtes professionnelles. C'est ça que vous voulez ? Pour les autres, les filières générales. Non, je ne suis pas malhonnête. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on fait ? Enfin, je veux dire, pourquoi vous déniez la professionnalité ?
Mais attends, Frédéric, attends, donne-moi une minute. Excusez-moi. Il est vrai qu'il reste du cours magistral et que nous sommes beaucoup à le regretter. Je peux même vous raconter que dans une université parisienne, il y a un amphi 700 et que l'enseignant, il change d'ailleurs tous les ans, qui est chargé de ce cours, Au début de l'année, c'est un moment tellement désagréable pour lui que deux ou trois collègues l'accompagnent. Vous savez, il y a un petit bureau à côté de l'amphi. Et au moment où il faut qu'il y aille, on le pousse, puis on referme la porte derrière lui et il rentre dans l'amphi 700. Donc ça, c'est insupportable. Ça a beaucoup diminué. Quand même, Frédéric a raison. Il ne reste pas du tout par rapport à ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans. Il reste beaucoup moins de cours magistraux. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce que je vois bien, et j'ai commencé par ça tout à l'heure, c'est que le piège de la réforme qu'on nous propose maintenant est de capter notre attention sur des choses absolument urgentes et énormes et donc de détourner notre énergie de tout le problème qui est un vrai problème profond sur lequel nous devons réfléchir avec un certain nombre de choses. Je voudrais ajouter par rapport à ce qu'a dit Jean-Claude tout à l'heure sur la force de travail mondialisée que ce n'est pas dans le cadre de la nation qu'on trouvera la réponse. La force de travail mondialisée, cette tentative, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, de mettre en œuvre un marché du travail mondialisé nécessite une riposte coordonnée des universitaires du monde entier. Et ça, on en est très loin, parce que, pas seulement dans l'université, mais partout ailleurs, on continue de penser les choses dans un cadre géographiquement qui n'est pas le bon, à une échelle qui n'est pas la bonne. Il y a des disciplines, je sais qu'en droit international, on a fini par fonder une société européenne du droit international qui est beaucoup plus progressiste que la société française de droit international. Mais il faudrait que dans toutes les disciplines, il y ait des regroupements dans lesquels on pense pas seulement la discipline, mais qu'on pense la formation à la discipline ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on évitera le piège du marché du travail mondialisé. Voilà, c'était les points pour moi les plus importants. Merci de tous vos apports, parce qu'il y avait pas tant de questions que des commentaires très enrichissants. Et je crois qu'on va passer maintenant à des activités différentes. Bonne journée.
Ouais, deux secondes. Je rappelais que les films, les documents, les textes dont on faisait référence sont pour la plupart disponibles là. Il se trouve que le film Université Le Grand Soir est en rupture de stock sur place ici à Uzest, mais on a mis en place une feuille pour pouvoir commander et dès lundi ou mardi, vous le recevrez dans vos boîtes aux lettres. Hein, enfin, je l'enverrai de lundi de Paris, donc ça sera mardi, mercredi plutôt. Donc on peut toujours l'acquérir même s'il n'est pas présent physiquement sur place. Et je voulais signaler aussi un entretien, on n'en a pas parlé, de 70 minutes, enfin un peu au long cours avec Monique. Autour de la nécessité d'une Cour mondiale de justice et deuxième thème qui est évoqué dans cet entretien, autour de l'Europe des camps et d'une réflexion nécessaire pour une autre Europe. Voilà. Merci.